La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
À 8h42, l'heure de retrouver Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz.
Bonjour David.
C'est vous notre esprit libre de ce jeudi et il y a une campagne qui vous passionne. Ce n'est pas la campagne des agriculteurs français, c'est la campagne de Trump qui vient de commencer par deux victoires successives, l'une dans l'Iowa, l'autre dans le New Hampshire. Quelles leçons en tirez-vous ?
Bon, d'abord, rien n'est joué. Moi, j'ai suivi pas mal de campagnes présidentielles américaines, pour le Nouvel Observateur notamment, et je crois qu'on peut dire qu'il y en a à la fois de la course d'obstacles, du tir au pigeon et des jeux du cirque. C'est pourquoi le vainqueur de la primaire du New Hampshire n'est pas toujours, au final, le candidat de son parti à la présidentielle, contrairement à ce que on dit un certain nombre de confrères ces derniers temps. Bon, vous vous souvenez d'abord John McCain, il a gagné toutes les primaires, et puis, à la fin... Ça n'a pas fonctionné. Et en 1992, c'est même un inconnu, Paul Tsonga, sénateur de Massachusetts, qui avait battu le futur président Bill Clinton, qui était alors empêtré dans une affaire sexuelle, en l'espèce une relation extramaritale, une de plus, avec la chanteuse Jennifer Flowers. Donc, après sa victoire du New Hampshire, Trump est bien parti, mais comme l'a très bien dit Nikki Haley, il n'a pas encore gagné.
Elle s'accroche, Nikki Haley.
Ben oui, parce que c'est une bonne candidate, hein, et ça vous pas vaincu. Elle a du coffre, de l'expérience, des compétences incontestables. Et puis, surtout, dans les sondages, quand vous regardez les sondages, elle apparaît comme la meilleure candidate contre Joe Biden. C'est-à-dire, elle fait un score largement supérieur à celui de Trump. Et si elle était battue assez nettement dans New Hampshire, avec quand même 45% des voix, eh ben, je dirais que son cas n'est pas désespéré, à condition toutefois qu'elle ne prenne pas une claque lors des prochaines primaires le 24 février, parmi les États concernés, d'ailleurs celui dont elle fut la gouverneure pendant 8 ans, la Caroline du Sud. Et les sondages, pour l'instant, ne sont pas très bons.
Vous faites assez peu de cas de Kamala Harris, la vice-présidente qui était en réserve de la République, si j'ose dire. Est-ce qu'elle pourrait s'inviter dans cette campagne ?
Mais non, elle n'imprime pas. Elle est incapable de remplacer Joe Biden, ça je crois que tous les Américains sont d'accord là-dessus, enfin tous les démocrates. Et le problème, c'est que... On voit pas tellement qui pourrait remplacer Joe Biden in extremis. Bon, il y a un vague représentant qui est candidat aux primaires démocrates, ça paraît peu probable. Il y a le gouverneur de Californie, mais un peu woke sur les bords. Ça, on voit pas un homme de cette engeance. Président des États-Unis, il y a une gouverneure du Michigan, mais franchement, il y a que Biden. C'est vraiment le gros problème parce que Biden, bon, c'est pas son âge qui pose problème, vous le savez très bien. 81 ans, 82 quelques jours après son élection, s'il est réélu. Et bon, après tout, Trump, lui, il a 78 ans. Il aura 78 ans le 14 juin prochain. Donc, non, le problème de Biden, c'est... Comment dire ? C'est très compliqué à dire, parce que c'est l'image qu'il donne. Les difficultés de motricité. Hein ? Alors, évidemment, après, on en rajoute, parce que ses blagues à deux balles, par exemple...
Il y a des moments de distraction, quand même.
Non, mais quand il dit « je vais aller me coucher », enfin, c'est honteux, ce que racontent les confrères. Biden a toujours été quelqu'un comme ça, qui fait des blagues foireuses, qui dit un peu n'importe quoi, qui confond les gens. Moi, je l'ai connu il y a 30-40 ans, déjà, c'était ça. Il vous appelait par un autre nom. Mais bon, il y a un petit côté dyslexique.
Ou dans un meeting, il appelle quelqu'un qui est mort.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas nouveau, ça. Ça a toujours été son... Mais il y a des gens comme ça. C'est un de ses traits de caractère, disons.
Donc, vous pensez qu'en fait, Biden n'est pas physiquement ou mentalement diminué,
qu'il a encore l'énergie de faire une campagne. On l'a vu après l'histoire du 7 octobre, il a improvisé un espèce de discours devant la communauté juive qui était invitée à la Maison Blanche, et c'était formidable. Et puis il y avait des messages comme ça pour l'Iran, et tout ça était totalement improvisé. On le voit bien. Enfin, c'est quelqu'un. Et puis c'est un grand président. Alors, c'est un grand président, ça. Je crois qu'aujourd'hui, bon, sur l'endettement, le bilan est déplorable, mais enfin ça, c'est pas en France avec Macron qu'on pourra lui donner des leçons. Mais sur le reste, il s'est quand même passé des choses. France, il a investi.
France, dans le journal
sur le plan industriel.
Dans le journal de 8h, il y avait un sujet de Laurent Saïm, qui est notre correspondante aux États-Unis et qui suit cette campagne, qui disait que les démocrates qui entouraient Joe Biden avaient opté pour la stratégie du chute, c'est-à-dire face au vacarme de Donald Trump, la stratégie de Biden, c'est je suis posé, je ne parle pas trop, voire j'oppose mon silence au bruit et à la fureur de Donald Trump. Est-ce que ça peut être une stratégie, ça, de campagne?
Oui, mais enfin, je pense qu'ils ont déjà commis des erreurs, c'est-à-dire en lançant l'énorme offensive judiciaire, parce que ça, c'est parti du ministère de la Justice, c'est Biden qui a appuyé sur le bouton, en lançant cette énorme offensive judiciaire contre Trump à quelques mois de la présidentielle. Ils auraient pu faire ça avant, quand même, il y avait tout le temps. Mais simplement, Biden pensait, ça tout le monde le sait, ça, il pensait que Trump était un meilleur candidat contre lui, c'est-à-dire qu'il avait plus de chances de le battre. D'ailleurs, les sondages confirment que Nikki Haley ferait un meilleur score.
Vous m'avez dit, Franz-Olivier Gisbert, vous avez suivi plusieurs campagnes aux États-Unis. C'est un pays qui vous passionne. Comment expliquez-vous la difficulté du Parti démocrate à renouveler ses élites et à produire des candidats? Il y a quand même eu dans le passé Bill Clinton, il y a eu Barack Obama, je dirais même aussi Al Gore, qui avait d'autres qualités, même s'il n'a pas été élu président des États-Unis.
Non, oubliez-le, celui-là, il n'était pas bon.
Comment expliquez-vous que la pépinière du Parti démocrate soit en panne?
Eh ben, c'est ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev, vous savez, l'économiste soviétique qui expliquait que ça monte, ça descend, il y a des cycles. Et c'est vrai qu'il y a du monde, bizarrement, au Parti républicain, il y en avait moins il y a quelques années, et aujourd'hui, quand on recherche des têtes à l'intérieur du Parti démocrate, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, quoi.
Alors, on parle de Donald Trump. Les diplomaties européennes commencent à travailler sur les conséquences de sa victoire face à Biden. Un scénario qu'il faut envisager, selon eux, de plus en plus. Et vous n'êtes pas le premier à me mettre sur cette piste. On me disait tout récemment que les services diplomatiques européens se disent qu'est-ce qu'on fait si Donald Trump accède au pouvoir et qu'il accentue la politique isolationniste qu'il promet aux Américains.
Oui, c'est-à-dire que le Trump, le nouveau Trump, s'il était élu, on peut pas dire réélu, puisque c'était Biden qui avait été élu la dernière fois, qui arriverait au pouvoir, c'est quelqu'un d'un peu déchaîné. C'est tout ça vient après l'assaut du Capitole, vous vous souvenez, le 6 janvier 2021, par une bande de braillards qui se réclamait de lui et qui prétendait, comme lui, qu'il avait gagné la présidentielle. Donc, je pense qu'il y a un petit côté enragé, d'ailleurs, on le voit très bien, ça a toujours été son style, mais je veux dire, et aujourd'hui, il est un peu exagéré, il y a un petit côté, j'allais dire, presque... Enfin, j'ai du mal à le dire, mais enfin, faut le dire quand même, un petit côté psychiatrique, quoi. Sur le plan européen, je crois qu'il faut dire que ce serait une catastrophe. Parce que l'Europe l'exaspère. Hein, il a envie de laisser cette espèce de ventre mou et il veut le laisser gérer par Poutine, peut-être même par Erdogan, on ne sait pas. Enfin, oui, parce que c'est un président qui rentre tout à fait dans la tradition isolationniste.
Mais pourquoi l'Europe l'exaspère?
Le ventre mou. C'est-à-dire le côté l'Europe qui n'existe. Enfin, c'est vrai que le spectacle que donne l'Europe aujourd'hui est particulièrement effrayant. Enfin,
mais ça veut dire
pas
raconter
de blagues. Il y a eu l'offensive russe contre l'Ukraine et personne ne bouge. Alors il y a Macron là, c'est très bien ce qu'il fait. Il parle défense européenne, mais enfin. Personne n'a envie de le suivre, ni l'Allemagne, ni personne. Et ce côté spectateur plus ou moins engagé de l'Europe, c'est effrayant. Enfin, peut-être à un moment donné, il faudrait que l'Europe se reprenne avant qu'il soit trop tard.
Ça veut dire que selon Trump, l'Europe et les États-Unis n'ont plus de valeurs communes, de passé en commun, de projets en commun, de coopération en commun.
Bah, c'est pour ça que, justement, Joe Biden, s'il était réélu, serait quand même une meilleure solution pour l'Europe. Lui, il a carrément, oui, c'est ça, il a baissé le rideau de fer, il s'en fout. Il regarde du côté de l'Asie, du Pacifique, je crois que c'est ce côté-là de la planète qui l'intéresse.
Franz-Olivier Gisbert, à quel âge vous êtes-vous mis à lire?
Oh, 8 ans. 9 ans, oui. Mon premier livre, je me souviens très bien, c'était 93 de Victor Hugo, j'avais 9 ans. Puis j'ai décidé de devenir écrivain.
Bah, et sitôt, vous aviez, à 9-10 ans, vous vous êtes dit, je vais écrire.
Ouais, j'ai commencé à tout lire. Tout. Ça a beaucoup aidé, d'ailleurs. parce que vous savez, quand on lit beaucoup avant 20 ans, eh ben on gagne en général 20 ans dans la vie.
Et on se souvient de ces lectures quand on est tout jeune, effectivement. Je vous pose la question parce qu'on passe à un tout autre sujet, mais qui recoupe évidemment vos souvenirs de lecteur et peut-être aussi d'écrivain. Ce sont ces deux parlementaires, Annie Jevenard et Fabrice Le Vigoureux. Elle est LR, lui est Renaissance. Ils viennent de publier un rapport sur la lecture. Selon les textes passés par les 16-24 ans, lors de la journée... selon les tests passés par les 16-24 ans, lors de la journée Défense et Citoyenneté, un jeune sur cinq a du mal avec la lecture. Et en CE1, 47% des élèves n'atteignent pas le seuil des 50 mots lus par minute. Et ça vous inquiète?
Eh ben, ce qui est inquiétant, c'est la raison. Elle est pointée par la républicaine Genevard et le macroniste Fabrice Le Vigoureux. C'est très simple. Le responsable, c'est la méthode globale. Vous savez, la méthode idiovisuelle qui a fait tellement de dégâts et qui est encore enseignée, apparemment, par un tiers des enseignants, avec le syndicat de pratiquement tous les le soutien de tous les syndicats, sauf un. Alors que cette méthode ne marche pas, contrairement à la méthode syllabique, que toutes les études scientifiques sérieuses ont validé. Alors, évidemment, c'est pas la méchanceté des enseignants, c'est pas ça. C'est une question de formation. Alors là, un sujet dont on devrait s'en parler le Parlement, mais il n'aura pas le temps puisque maintenant il va s'occuper de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.
Ça c'est un autre sujet. Mais on s'arrête sur la lecture
oui,
quand même.
Oui.
Vous êtes certain que c'est une question de méthode d'enseignement, sachant que la concurrence des images est immense, la concurrence des écrans est également immense. On vient d'en parler avec notre invité de 8h15, la baisse de la concentration, etc., etc. Les parents qui sont eux-mêmes sur leurs écrans, est-ce que finalement la méthode syllabique ou une autre méthode, c'est peu de choses par rapport à toutes les distractions et à toutes les concurrences de la lecture?
Vous croyez que vous marquez un point?
Non.
En fait, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, les écrans, ils sont partout.
Mm-mm.
Ils sont pas seulement en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a absolument partout. Vraiment, nous, quand on regarde nos chiffres, notamment des études PISA, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, je pense que c'est pas parce que le phénomène est global et général et tout le monde est touché, mais c'est évident sur la concentration, mais qui peut dire le contraire? Mais en fait, il faut quand même, sur ce plan, quand même, prendre des décisions. Ce qui est effrayant, vous voyez, c'est l'espèce de, avec toutes ces mauvaises nouvelles qui tombent. Là encore, Hervé Gattegnaud nous parlait tout à l'heure, excusez-moi, mais quand même, faut revenir là-dessus aussi, les actes antisémites, c'est quand même dingue. Multiplié par 3, hein, on est à 1667 l'an dernier, en 2023. Et vous savez que quand ça a commencé? Ça n'a pas commencé avec l'offensive d'Israël contre le Hamas. Ça a commencé dès le 7 octobre. Non, mais c'est effrayant. C'est effrayant.
Quel lien vous faites entre cela et la lecture?
Ah ben, le lien, c'est très simple. Ce sont les mauvaises nouvelles de la journée, quand même. Dans la même journée, on a deux mauvaises nouvelles. C'est quand même... excusez-moi, il y a vraiment... Et puis, on pourrait parler de l'immigration sans contrôle, de l'endettement sans contrôle, enfin, tout ce genre de choses.
Je pensais que vous alliez me dire, un peuple qui ne lit plus est un peuple vulnérable. Et il est vulnérable face à l'antisémitisme.
Oui, bien sûr.
Il est vulnérable face à l'adversité.
Bien sûr. Puis il ne connaît pas l'histoire. Hein, ça ne l'intéresse plus. C'est un peuple sans mémoire. Les peuples sans mémoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les bêtises des générations précédentes.
Franz-Olivier Gisbert était notre esprit libre de ce jeudi. Eh oui, on a terminé. Le temps tourne, Franz.
Il y avait plein de choses.
Je sais qu'il y avait d'autres sujets que vous vouliez nous parler du parquet national financier.
De l'avortement.
Qui fait appel
puis,
de l'ancien ministre du Travail. On fera
PNF,
ça la semaine prochaine.
Supprimer.
Ça suffit, Franz-Olivier Gisbert.
Il faudrait supprimer le PNF, vous voulez pas que je dise?
Puisqu'on est à l'heure, nous allons quitter... avec Mozart et Sylvie Vartan. Sylvie Vartan qui vient d'annoncer ses adieux à la scène en novembre prochain. Et j'ai découvert ce matin, à l'effroi d'Hervé Gattegnaud, que Sylvie Vartan avait fait une chanson en italien, dont la musique est directement inspirée par la symphonie numéro 40 de Mozart. Ce fut un tube au Japon, en Italie, mais pas en France. Vous allez comprendre pourquoi.
Per un viaggio senza fine e volare.